Cotable.
Pour être rationnel, il faut être radical.
Je dis toujours que manger est politique.
Il faut que l'aspect santé est primordial.
Il faut prendre le sujet à la racine.
Et là, une fois encore, le changement climatique, il amène un curseur différent.
Faire une révolution écologique.
Et la racine, c'est pas uniquement nous en tant que consommateurs, le porte-monnaie, etc.
C'est les versants que j'ai découverts, c'est la cuisine très engagée, c'est des personnalités fortes.
Et c'est la combinaison des deux qui fait que le produit va être bon.
En fait, à la campagne, on n'a pas besoin de suivre un schéma sur Instagram.
Sur le grill, décotable.
Je suis Fanny Gianceto. Dans ce podcast, je décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. J'interroge également des personnalités publiques sur leur relation à l'alimentation et aux enjeux environnementaux. Que l'on soit expert, scientifique ou politique, artiste, même simple citoyen, l'alimentation est l'une des clés du changement. Vous nous suivez ? Et pour découvrir tout ce que l'on fait chez Écotable, n'hésitez pas à consulter notre site écotable.fr. Vous y trouverez des restaurants labellisés dans lesquels manger, mais aussi des outils d'accompagnement pour les restaurateurs afin d'accélérer la transition écologique. Bonne écoute ! Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très actuel en ces temps de fermeture des restaurants et de recours massif à la vente à emporter, la consigne. La crise sanitaire est à l'origine d'une hausse de l'utilisation du plastique et des emballages à usage unique. Depuis le premier confinement, la production d'emballages alimentaires a augmenté de 20%. Or, les chiffres avant la crise étaient déjà effrayants. En effet, la livraison à domicile et la vente à emporter généraient 4,7 milliards de gobelets et 300 millions de boîtes, rien qu'en France. Au-delà de leur impact environnemental, les contenants jetables font débat d'un point de vue de la santé. En effet, ils sont souvent composés de plastique ou de carton, matières qui peuvent contenir des produits dangereux pour l'humain. Pour limiter tous ces impacts, le système de la consigne commence à faire son retour. Mais l'intérêt et la faisabilité de cette pratique posent question. Qu'en est-il si la consigne est faite de plastique? Qu'en est-il de l'impact des autres matériaux? Comment convaincre le grand public de se remettre à cette pratique? Est-ce une alternative crédible aux emballages jetables au regard des habitudes de chacun? Pour en parler, je suis avec Nicolas Piffeteau, chef des opérations chez Berpac, un système de consigne pour les restaurants. Bonjour Nicolas.
Bonjour.
Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter ?
Nicolas de Berpac, c'est un service qu'on a lancé en janvier. Et du coup, moi, je viens de l'univers de la réduction du gaspillage à la base. J'ai travaillé chez Phoenix, une startup qui a aujourd'hui bien grandi.
Tu peux nous rappeler, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que fait Phoenix ?
Phoenix, c'est des services en B2B et en B2C de réduction du gaspillage. C'est-à-dire que, je dis encore « on », on aide les professionnels à gérer la fin de vie de leurs produits. Tout ce qui va, une fois que le produit il n'est pas vendu en cycle de vente initial, qu'est-ce qui se passe? Comment on met des promotions sur ces produits-là? Est-ce qu'on peut donner ces produits à des associations? Qu'est-ce qu'on fait une fois que c'est plus donnable ni consommable par des humains? On les envoie, par exemple, en alimentation animale ou en compost. Gérer toute la fin de vie et l'optimiser de manière à aussi montrer que l'économie circulaire, ça peut être faire gagner beaucoup d'argent pour les business. C'est une vision très pragmatique un peu de l'économie circulaire.
Et qu'est-ce qui t'a fait passer de Phoenix à la consigne?
C'est très lié à la réduction des déchets. C'est avant tout une question de taille de structure. Phoenix a déjà bien grandi. Moi, je suis arrivé, on était 5 chez Phoenix. Maintenant, ils sont 200. C'est une boîte incroyable avec beaucoup d'ambition sur l'impact particulièrement. Mais on fait pas le même métier quand on est 200 que quand on est 5. Et l'idée, c'était de retrouver aussi de continuer à créer des services ou des process autour de la réduction des déchets. Il y a encore beaucoup à faire.
Alors, raconte-nous ce que c'est Berpac.
Berpac, c'est un système de contenants utilisables pour la vente à emporter et la livraison à domicile. J'insiste sur le côté livraison. L'idée, c'est de remettre au goût du jour le fait de prendre des plats à emporter ou en livraison, dans des contenants qu'on va réutiliser, et de mettre fin à l'emballage à usage unique, qui est un fléau de manière globale, qu'il soit en carton, en biodégradable, en quel que soit le matériau, l'usage unique est un fléau. Et donc, Berpac, c'est un système aujourd'hui de 70 restaurants, et c'est très inspiré de l'économie de partage. Parfois, pour l'expliquer, on parle aussi des systèmes un peu comme les Vélib, les vélos partagés, où on peut se faire prendre un plat dans un restaurant, se faire livrer dans un restaurant et ensuite rapporter le contenant n'importe où dans le réseau. Et c'était un peu cette notion-là qu'on voulait aussi adapter au réemploi. L'idée de on a un accès illimité à ce réseau de zéro déchet et de rendre visible le coût de l'emballage qui était toujours pris en compte par les restaurants. C'est toujours le restaurant, ça le coûte entre environ 30 centimes, 50 centimes par repas sur l'emballage jetable. L'idée, c'est de rendre visible ce coût pour que les gens comprennent aussi comment ça fonctionne. Et donc, ce sont les utilisateurs et utilisatrices qui payent 2 euros par mois pour accéder à ce réseau zéro déchet. Et donc, pouvoir prendre en portée n'importe où dans Paris ou en proche couronne et se faire livrer sur certaines plateformes de livraison dans des contenants utilisables.
Aujourd'hui. Tu travailles avec quelle plateforme aujourd'hui ?
Avec resto.paris, lancé par Ecotable.
Et
Olvo. Avec qui on travaille aussi. Et sur une autre plateforme qui s'appelle Eatic, qui est une plateforme de livraison de plats végétariens et vegan, qui se sont lancés il y a quelques mois aussi, mais qui avancent bien.
Super. Du coup, je voudrais directement entrer dans le vif du sujet, qui est... est-ce que il faut vraiment retourner vers cette consigne? Est-ce que c'est ça la solution? D'un point de vue environnemental, ça paraît un peu évident de dire si les déchets à usage unique, si les emballages à usage unique sont un fléau, la consigne paraît évidente. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Je pense à deux hypothèses. L'hypothèse où on crée une consigne en plastique et donc un plastique plus épais qui demande plus d'énergie. Qu'est-ce qui se passe au final si ce contenant est abîmé derrière, si on l'utilise pas un nombre suffisant de fois pour que ça soit intéressant? Ou l'autre exemple, c'est le verre. Est-ce que si on prend une consigne en verre et que le verre se casse, ça n'a pas un impact plus fort que si on utilise un contenant jetable?
C'est sûr. Et c'est très compliqué d'avoir des données fiables et comparables. Tous les fabricants ont leur propre analyse de cycle de vie et tous prennent des hypothèses différentes.
D'accord.
Les hypothèses les plus importantes, c'est en effet le nombre d'utilisation du contenant. Qu'il soit en plastique ou en verre, c'est ça la donnée clé. Si on arrive à garantir que le contenant il sera réutilisable 1000 fois, ce sera toujours positif. De manière générale, ce qu'on peut dire, c'est qu'à partir de 10 utilisations, le réutilisable est préférable au jetable.
Même pour des contenants comme l'inox qui, à la création, ont un impact plus fort que la création d'un plastique à usage unique.
Ouais.
Ok.
Ouais. Et même si l'inox, en plus, est fabriqué en Chine de manière générale parce qu'il n'y a pas de filière en Europe, donc il y a le coût du transport aussi.
Ouais.
Et c'est dire à quel point le jetable est
néfaste. Fléau.
Ouais. Parce qu'en plus, il y a tous les coûts cachés, tous les coûts écologiques cachés. Aujourd'hui, il y a très peu des emballages jetables qui sont recyclés. On estime à 10% à peu près le nombre d'emballages jetables qui sera recyclé in fine. Et il y a une partie de ces emballages jetables-là qui finiront dans la nature et qui auront un coût écologique aussi pour la biodiversité, pour le reste.
Ok. C'est intéressant ce que tu dis parce que dans mon esprit, l'inox avait un tel impact en termes d'émissions carbone qu'il fallait utiliser notamment la gourde que j'ai sur la table pendant 10 à 20 ans pour qu'elle puisse être positive d'un point de vue, en comparaison d'une bouteille d'eau en plastique, quoi.
Non, le verre aussi a un coût à la fabrication au niveau de l'extraction et de la température à laquelle il faut monter pour fabriquer des contenants en verre, c'est aussi énorme. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est comment on choisit le meilleur contenant pour le réemploi. Est-ce qu'on va prendre le plastique réutilisable? Si oui, quel plastique? Est-ce qu'on va prendre le verre ou l'inox? L'inox, aujourd'hui, il est un peu disqualifié pour moi. Je sais qu'il y a des certains projets autour de la consigne qui l'aiment bien, mais il est fabriqué en Chine, ce qui est pas forcément explicable aujourd'hui aux consommateurs, aux consommatrices. Et en plus, il transmet beaucoup la chaleur, ce qui est très dommageable pour des plats emportés ou en livraison.
Dommageable pour qui?
Parce que du coup, on reçoit le plat, il est brûlant et on peut pas le tenir. Il faut du coup une manche, souvent en silicone, qui lui n'est pas recyclable.
Donc à la fois pour le livreur et à la fois pour le consommateur.
Ouais.
Ok. Alors vous, chez Berpac, donc tu as eu la gentillesse de nous amener un contenant pour qu'on voit à quoi ça ressemble, pour que je vois à quoi ressemble. Donc là, j'ai devant moi un contenant, mon bento. C'est un contenant qui est en plastique, qui est plus particulièrement en PBT. Il me semble, puisqu'en fait on a
polypropylène en PP, du coup.
En PP, excuse-moi.
Ouais, t'inquiète pas.
Donc on a, j'ai récemment compris à quel point on avait une diversité de plastiques dans notre monde. Pourquoi avoir fait le choix de ce contenant?
C'est une très bonne question. Nous, on a fait d'abord le choix du partenaire. On travaille avec Monbento, qui est une entreprise clermontoise, qui fabrique ses contenants. Et c'est important dans le choix des contenants réutilisables en plastique, notamment pour être sûr de ce qu'on, de ce que les producteurs disent, au notre niveau, notamment des perturbateurs endocriniens. Il faut être sûr de la provenance du plastique. Et donc on a fait le choix du partenaire parce que c'est aussi, on en parlait tout à l'heure, mais c'est aussi une marque qui est reconnue par les consommateurs et consommatrices. C'est quelque chose qui est installé. Et après, leurs contenants, son design, c'est quelque chose qui est important de travailler l'expérience de comment on va manger dans le contenant. Et ensuite, leurs contenants sont cool. Le PP, c'est un matériau qui est très recyclable et très recyclé en France. Donc c'est facile. Donc cette boîte-là, elle est fabriquée en Chine. Mais les prochaines seront... Le moule de la boîte est arrivé à Clermont, donc les prochaines seront faites en France.
D'accord. Mais pourquoi tu as choisi le plastique ?
En fait, si on regarde à nombre d'utilisations égales, un contenant en verre et un contenant en plastique, le contenant en verre doit être utilisé 3 fois plus de fois pour avoir le même coût écologique, la même empreinte carbone. La fabrication du verre demande beaucoup plus d'énergie que le plastique. C'est un peu quelque chose qui est contre-intuitif, mais par exemple, quand on regarde les sacs en plastique et les sacs en papier, un sac en papier va demander plus d'énergie à être produit qu'un sac en plastique.
Ok, mais ça prend pas en compte l'analyse du cycle de vie global du produit et donc la pollution in fine générée par le plastique.
Exactement. D'accord. Donc en fait, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Le plastique, ça a d'autres avantages. C'est léger, c'est plus facilement empilable, encastrable. Au niveau du stockage, c'est plus facile. Les restauratrices en ont moins peur. Le verre, dans certaines cuisines, est un peu banni. Parce qu'à partir du moment où tu casses quelque chose en verre dans une cuisine, t'es censé jeter tous les plats tout ce qui est ouvert. Donc il avait tendance à être interdit dans les cuisines. C'est en train de revenir et quand on en parle, on se rend compte qu'ils ont tous quelque chose en verre dans la cuisine, mais...
C'est quelque chose qui fait peur et qui en tout cas effraie les restaurateurs que tu essayes de convaincre pour passer à la consigne. Moi, dans les chiffres que j'ai cherché pour préparer ce podcast, j'ai lu quand même que si on comparait une tonne de verre à une tonne de PET, alors peut-être que c'est parce que c'est un plastique différent, je me rends pas compte, le verre avait quand même un équivalent CO2 bien moins important que le PET. Donc on était sur 810 kg de CO2 pour une tonne de verre et 3260 kg de CO2 pour une tonne de PET.
Moi, c'est pas les chiffres que j'ai.
Ok.
J'ai pris ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux producteurs aux fabricants de contenants et on leur demande quelles hypothèses ils ont pris. Et quand on compare ça aujourd'hui, l'idée, c'est d'aller vraiment chercher le meilleur contenant qui soit et on travaille justement avec Monbento pour améliorer leurs contenants, faire en sorte qu'ils soient plus durables. C'est ça la clé, en fait. C'est, pour une fois, c'est si on arrive à avoir un contenant qui va résister à 1000 usages, garanti, c'est la clé. Et le verre, il est pas parfait, il peut casser. Le plastique PP, il est pas parfait non plus aujourd'hui. Il peut s'abîmer. Par exemple, il est pas très résistant au coup de couteau qu'on pourrait avoir dans le plastique.
Ouais. Mais ce que tu dis, du coup, ça nous amène à la question notamment de la santé. C'est-à-dire que souvent, on va essayer de privilégier du verre ou de l'inox justement parce qu'il y a peut-être pas de passage dans la nourriture. Comment tu gères toi cet aspect pollution, et tu nous as parlé tout à l'heure des perturbateurs endocriniens, le fait que dans le plastique il y a des additifs qui sont jugés problématiques pour la santé humaine.
Ouais, c'est très problématique, et aujourd'hui la réglementation est en train d'évoluer en plus à ce niveau-là. Aujourd'hui, il y a le BPA, bisphénol A qui est interdit, mais en fait ce bisphénol, il est remplacé par d'autres molécules aujourd'hui.
Qui comme sont le pas en... BPB, qui est exactement probablement pire que le BPA.
Exactement. Donc faut être un peu en avance et chercher les producteurs qui sont capables de dire « Ok, il n'y en a pas chez nous ». Ce qui pose une autre question, comment sont effectués les tests ? Mais bon, ça, c'est encore une autre question plus vaste et plus technique. Mais c'est pour ça qu'on a choisi Monbento. C'est qu'on ne va pas choisir le contenant le moins cher. On va choisir le producteur, le fabricant qui aura les meilleures garanties à ce niveau-là.
Ok.
Ouais.
Mais comment tu juges du coup que quelle est ta position là-dessus à partir du moment où ton contenant est rayé par exemple par des coups de couteau? Est-ce que du coup ça disqualifie la consigne ou on peut quand même continuer à l'utiliser?
Tout dépend de la rayure du coup de couteau, mais oui, en fait, les contenants, ils sont faits pour résister, ils sont garantis 3 ans chez Mon Bento, qui a une certaine durabilité, c'est sûr. Après, en fait, c'est nous ce qui va disqualifier le contenant, c'est plus un critère visuel. C'est si les coups de couteau sont trop profonds, si ça se voit trop, on enlèvera le contenant des circuits. Mais il n'y a pas de crainte à avoir s'il y a des micro-rayures, c'est pas pour autant qu'il y aura un transfert. Le PP, c'est quelque chose, un matériau qui est quand même assez stable. Les autres matériaux plastiques sur lesquels les contenants réutilisables en plastique sont faits, il y a souvent le Tritan, c'est des matériaux qui sont quand même très très stables et donc ils vont pas transférer beaucoup de molécules.
Même si on chauffe le contenant.
Même si on chauffe le contenant.
Ok, aujourd'hui ton contenant il peut être chauffé.
Il peut être chauffé au micro-ondes, il passe au lave-vaisselle, il passe au congélateur.
Ok. Je voudrais nous parler aussi de manière générale de l'aspect social. Quelles sont les difficultés pour passer à la consigne aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait notamment que la France est si en retard sur la consigne? Donc si on compare à Berlin par exemple, c'est assez impressionnant la différence entre Paris et Berlin pour ça, c'est-à-dire que là, en ce moment, on prend une bière dans la rue, c'est forcément du plastique. À Berlin, on verrait pas ça. On verrait qu'un contenant réutilisable, quelque chose de consigné. Pourquoi est-on si en retard?
Très bonne question. Ils ont aussi cette culture-là qui est venue de la consigne pour recyclage, avec toutes ces bouteilles en plastique. Ce qui est pas forcément la meilleure solution non plus. Hein.
C'est quoi la consigne pour recyclage?
C'est que les bouteilles de soda en plastique ou de bière en plastique vont être récupérées, collectées avec un bon dans les supermarchés, mais ces bouteilles vont pas être réutilisées, elles vont être refondues pour en refaire du plastique.
D'accord.
Ou participer à la production de nouveaux plastiques. Donc ça, c'est la consigne pour recyclage, au contraire de la consigne pour réemploi, qui est en train d'essayer d'être poussée, notamment par la mairie de Paris, avec l'élu Florentin Lotissier.
D'accord.
Pourquoi est-ce qu'on est encore beaucoup en retard? Il y a pas non plus de standard de consigne en France. C'est-à-dire que quand il y a un restaurant qui essaie de mettre en place une consigne, la personne va être obligée de rapporter le contenant dans ce même restaurant-là. Et ça, c'est un frein qui est clairement identifié. La consigne, elle n'est pas pratique non plus pour les restaurants. Au niveau de la gestion des parcs de contenants, c'est un investissement énorme à faire. Et en fait, quand le restaurant met en place une consigne, les gens l'utilisent, donc ok. Mais il faut que les boîtes reviennent. Et là, le restaurant finit par se battre avec ses propres clients pour qu'ils rapportent les boîtes. Parce que sinon, il est toujours en train de racheter de nouvelles boîtes. Et dernier point opérationnel, c'est que au niveau de la caution, ça pose des soucis au niveau de la comptabilité sur la TVA. C'est plein de petits freins, de petits blocages opérationnels qui font que c'est difficile aujourd'hui de la mettre en place. Il y a des restaurants qui le font très très bien à Paris. Mais c'est un vrai investissement en termes d'opérations, en termes de finances et de trésorerie.
Est-ce que ça veut dire aussi qu'on est plus en retard d'un point de vue législatif? Certes, on a une interdiction du plastique à usage unique qui est prévue d'ici 2050 avec certaines années clés. Est-ce que comparativement, l'Allemagne, par exemple, est plus en avance?
Je connais pas le contexte réglementaire en Allemagne. Ce qui est sûr, c'est qu'on va vers l'avant. Il y a de plus en plus de lois qui arrivent, qui viennent pousser, en tout cas interdire les emballages à usage unique. Donc ça, c'est très positif. Est-ce qu'on va assez vite? Non, pas du tout. C'est catastrophique ce qui se passe avec l'emballage jetable. C'est des millions de tonnes. J'ai que les chiffres avant Covid, mais c'est des milliards de gobelets en carton, c'est des milliards de boîtes repas qui sont jetées à la poubelle tous les ans, et une partie finit dans la nature. Et ce qui est sûr, c'est que les alternatives, les contenants biodégradables, les contenants recyclables, ne sont pas positifs non plus, parce que la majorité ne sont pas recyclés et la majorité ne sont pas compostés, parce qu'il faut soit pour les contenants recyclables, que ce soit triés à la source. Et en fait, les petits contenants en carton qui ont un film plastique à l'intérieur doivent être recyclés dans des conditions très spécifiques, et ce qui est rarement le cas aujourd'hui. Et c'est pareil pour les contenants compostables. Souvent, ce sont des, des contenants qui doivent être compostés de manière industrielle, et donc triés séparément aussi. Il y a des gens qui le font très bien avec les alchimistes, avec Vépluche, en région parisienne. Mais il faut que le contenant, il soit trié à la source.
Ouais, bien sûr. D'un point de vue social, comment tu fais pour dépasser les comportements ? De fait, aujourd'hui, est-ce que tu crois que les gens sont prêts à changer leur comportement par rapport au jetable et à passer à la consigne, à faire l'effort justement de potentiellement ramener ce contenant à chaque fois ?
Il y a Le Monde qui le dit, ils ont sorti un article l'année dernière qui ont dit que 90%, selon leur étude, 90% des gens étaient prêts à rapporter un contenant, une bouteille au supermarché ou quelque part dans le quartier. Donc ça, c'est les chiffres officiels. Dans la réalité, c'est un peu moins clair, mais oui, les gens comprennent ce que c'est. Après, ça pose deux problématiques. C'est qu'ils associent le réemploi à la consigne à l'ancienne avec un système de caution. Et nous, on veut s'affranchir de ça parce que ça pose trop de soucis au restaurant. Mais oui, les gens sont prêts, ils comprennent ce que ça veut dire et ils comprennent l'intérêt de vouloir réduire les déchets.
Oui, parce qu'aujourd'hui, la consigne, comme tu le dis, à l'origine, c'était une caution, donc on récupère un montant une fois qu'on rapporte le contenant. Mais aujourd'hui, en effet, on peut s'émanciper de ça pour faciliter la consigne. C'est-à-dire que j'imagine que le restaurateur peut aussi très bien décider que son contenant, il l'intègre dans ses coûts, et si la personne ne rapporte pas le contenant, au final, il perdra pas d'argent, parce qu'il le fait payer, en fait, ce contenant.
Ouais. C'est l'idée, c'est vraiment de créer un nouvel usage, des nouvelles pratiques autour de ça. Alors, il y a plein de façons de le faire. Nous, on a notre vision et on essaye. L'idée, c'est, toute l'équipe, on est avant tout des passionnés de la réduction des déchets et ce qui compte, c'est l'impact. Et donc, comment est-ce qu'on va amener le réemploi à une nouvelle échelle ? Il y a encore une fois, il y a des restaurants qui le font très bien à Paris ou ailleurs, mais l'idée, c'est comment est-ce qu'on va toucher des gens qui ont cette conscience environnementale mais qui n'ont pas le temps de mettre en place le zéro déchet dans leur vie tous les jours, ou alors des gens qui n'ont même pas forcément cette conscience environnementale mais que ça dérange pas de le faire parce que ça devient un nouvel usage, une nouvelle pratique. Et clairement, c'est en train de changer. Les plateformes de livraison aujourd'hui ont une sorte de pression pour trouver des solutions à ce niveau-là. Et donc, oui, dans les prochains mois, il y aura d'énormes changements et on espère justement à avoir une solution, un système qui soit suffisamment simple pour qu'on puisse toucher des gens qui ne l'auraient pas fait.
Et qu'est-ce qui se passe dans ton système si le consommateur ne rapporte pas la boîte ?
Nous, on a un système de tracking via une application mobile qui nous permet de savoir combien de contenants a l'utilisateur ou l'utilisatrice chez lui ou chez elle. Et donc, le système, il est limité. On peut prendre autant de contenants qu'on veut, contenants pour les repas, contenants pour les boissons. Il y a juste une limite en termes d'inventaire. On ne peut pas avoir plus de 5 boîte ou gobelet en simultané dans son inventaire virtuel. Donc si on a déjà 5 boîtes chez soi, on ne peut pas en prendre une 6e.
D'accord. Et qu'est-ce qui se passe s'il ne rapporte pas ces 5 boîtes ?
Alors du coup, comme c'est une application, on a l'empreinte bancaire des gens et on peut appliquer une sorte de pénalité si le consommateur ou la consommatrice veut garder les contenants. Mais voilà, on a les capacités aujourd'hui d'aller chercher cet utilisateur ou utilisatrice pour le dire... ce serait vraiment chouette que tu rapportes les contenants. Si tu veux les garder, très bien. Mais voilà, ça coûtera tant.
D'accord. Et qui gère le lavage de ces contenants ?
Sur le lavage, l'idée, c'est d'avoir la boucle logistique qui soit la plus courte possible. Aujourd'hui, les contenants, ils sont apportés théoriquement sales, je mets des parenthèses, dans les restaurants. Et donc, si le restaurant a les capacités de le faire, il faut qu'il lave et qu'il puisse réutiliser le contenant directement. C'est ça qui a le plus de sens. Donc, nous, l'idée, c'est vraiment de pousser pour que les restaurants fassent le lavage eux-mêmes, pour qu'il n'y ait pas une boucle logistique qui se crée supplémentaire.
Ouais. C'était ça ma question, parce que jusqu'où la consigne est intéressante ? Est-ce que si on ramène le contenant dans un endroit, qu'il faut ensuite l'emmener dans un autre endroit pour qu'il soit lavé, puis le ramener dans un tiers endroit, est-ce que mis bout à bout, on n'arrive pas à un moment où la consigne n'est plus si intéressante.
Bah, c'est sûr qu'à un certain moment, à partir d'une vingtaine, trentaine d'utilisations, ça vient atteindre une sorte de plateau où il y a le coût écologique, il ne peut pas être réduit parce qu'il y a les coûts de logistique et de lavage, en effet, à chaque fois. Mais ça reste de toute façon bien plus intéressant qu'un contenant jetable.
Ouais.
Parce que souvent, les analyses de cycle de vie, par le lobby du carton ou du plastique, de manière générale, ne prennent pas en compte les transports qu'il va y avoir à cause du jetable. Le transport des déchets d'un point A à un point B, où est-ce qu'il va aller le déchet, le coût de cette destruction. Si on compare vraiment l'analyse de cycle de vie de manière globale, ce qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui, hein, il y a plein de choses qu'on peut pas compter, c'est ça. Le réemploi est de toute façon toujours préférable.
Ouais. Et qu'est-ce qui fait blocage alors du côté des grosses sociétés pour qu'elles ne passent pas le pas?
C'est vrai que le jetable c'est quand même super pratique. C'est hyper léger, hyper stockable, ça prend très peu d'espace. C'est une infinité de possibilités au niveau de l'emballage. C'est-à-dire qu'on va avoir un emballage jetable qui va être parfaitement à 100% adapté au plat du restaurant.
Ouais.
Donc, ça veut dire
la rentabilité en fait quand même.
C'est la rentabilité, c'est l'opérationnel de manière générale. Il faut s'adapter. Le réutilisable c'est un peu changer la façon dont on fait les choses, peut-être faire évoluer très légèrement les plats. Il y a beaucoup de restaurants qui ont l'impression de dégrader leur expérience, l'expérience client en mettant en place du réemploi, parce que si le contenant il est un peu plus petit, un peu plus grand, on a l'impression d'en avoir moins dans son assiette.
Ouais.
Il y a plein de petites choses comme ça à faire évoluer, mais faut se rendre compte que, enfin nous, chez nous, la vraie expérience waouh, là où on a vraiment l'impression de faire quelque chose qui est grand, c'est quand on se fait livrer dans des contenants réutilisables. C'est une expérience qui n'existe pas ailleurs aujourd'hui. Autant on peut apporter son propre contenant dans un restaurant et se dire ok, je le fais et puis je le mets dans mon sac à dos et très bien. N'importe quelle personne zéro déchet peut le faire, mais il n'y a pas d'alternative aujourd'hui sur la livraison. Et c'est ce genre d'expérience, c'est de ne pas avoir à terminer son repas en jetant quelque chose à la poubelle.
Ouais, c'est clair.
Que ce soit au bureau ou chez soi, il faut sortir tous les cartons de pizza et les descendre à la poubelle. C'est terrible.
Je voudrais quand même parler de cette question de la rentabilité, parce que ça me paraît être un point clé pour faire changer les comportements, notamment de ceux qui produisent les déchets, entre guillemets, qu'ils soient restaurateurs, supermarchés, etc. Enfin, toutes les personnes qui vendent des choses avec des emballages jetables. Est-ce que aujourd'hui le jetable reste plus rentable que la consigne?
Non, c'est pas plus rentable. C'est plus facile à court terme parce que ça demande moins de changement. Mais du coup, pour revenir sur les chiffres, ça coûte au restaurant entre environ 30 centimes par repas en emballage jetable. Ça peut être un petit peu moins sur les emballages en plastique transparent qu'on peut retrouver dans certains restaurants, et ça peut être beaucoup plus.
Ils sont encore autorisés aujourd'hui ?
Et pas tous autorisés, mais alors, ce serait vraiment nouveau si tous se mettaient à faire ce qui est autorisé.
Ouais.
Mais ça, voilà, ça peut arriver jusqu'à 1 euro par repas en emballage jetable. Et un contenant réutilisable, ça coûte, selon la qualité du matériau, mais ça va entre 5 et jusqu'à 10 euros par contenant. Et encore une fois, la vraie question, ce sera combien de fois on va réussir à le réutiliser. Si on le réutilise 300 fois, il y aura un coût qui sera de quelques centimes. Et c'est avec ça que c'est la marge. Ça coûte au restaurant 30 centimes de manière générale. Là, ça va nous coûter à l'usage 3 centimes. On va rajouter un coût de lavage parce qu'en effet, il y a le coût de l'eau, il y a le coût de la main-d'œuvre qui va laver, qui va mettre les contenants dans la vaisselle. Mais on arrivera toujours à être à moins de 30 centimes.
Oui, puis c'est comme pour l'alimentation industrielle, c'est-à-dire que si on ajoute les externalités négatives à l'emballage jetable, en fait, on aurait un coût bien plus important que celui de l'emballage réutilisable.
Exactement. Et puis, mais de manière globale, pour nous, c'est très important de montrer que l'économie circulaire, c'est l'avenir au niveau pour les restaurants aussi, parce que ça leur permet de rentabiliser leur business. Et aujourd'hui, on le voit pour surtout en temps de pandémie. C'est une façon pour des restaurants de proposer une option zéro déchet à coût zéro pour eux.
Oui, est-ce que c'est pour ça que vous avez quand même fait le choix que ce soit le consommateur qui paye l'emballage et pas le restaurateur?
Bien sûr, c'est stratégique aussi. L'idée, ce sera toujours plus facile de convaincre des consommateurs de passer sur Berpac si tu as 200, 300, 500 restaurants qui sont dans Paris et que c'est hyper facile de rapporter ton contenant.
Oui, c'est vrai.
Le retour des contenants est un élément clé.
Aujourd'hui, pour revenir sur les matériaux, vous êtes sur le PP. Est-ce que vous allez proposer divers matériaux? Quel est l'avenir pour Berpac du côté de la consigne?
Oui, il y a d'autres matériaux qui sont à l'étude, en effet. Mais voilà, l'idée, c'est de chercher le contenant qui soit le plus pratique aussi. en termes de stockage, c'est très important dans les restaurants. Là, ça va, les salles sont fermées, donc les restaurants peuvent stocker un nombre, pas infini, mais c'est pas mal de contenants. Il faudra que les contenants soient le plus proche possible des caractéristiques du jetable pour pouvoir tenir dans le temps.
Est-ce que c'est envisageable pour Bearpack, du coup, de peut-être passer à l'avenir à du verre ou de l'inox?
Oui, c'est clairement envisageable. Le verre, ça a plein de qualités. Et c'est un matériau qui est souvent poussé par des gens très engagés sur le zéro déchet.
Parce que c'est aussi plus recyclé que le plastique.
C'est plus recyclé que le plastique. Oui. Après, le type de plastique qu'on utilise est recyclé parce que c'est visible que ce soit c'est un plastique recyclé. C'est pas un plastique que t'as envie de que tu confonds avec un plastique jetable.
Ouais.
Oui, non, mais le verre, c'est très intéressant. Et si ça peut permettre de toucher d'autres gens, d'aller chercher un plus grand nombre d'acteurs, que ce soit restaurants, utilisateurs, utilisatrices, faut passer là-dessus.
Oui, c'est surtout d'un point de vue santé que moi, ça peut me paraître pertinent. C'est vrai que j'ai du mal aujourd'hui à continuer à manger dans des contenants en plastique, tout simplement au regard des additifs qui sont mis et qui restent très peu transparents et avec une quantité... en tant que consommatrice, j'ai aucune visibilité en tout cas là-dessus. Quoi.
C'est sûr. Clairement, on ne mettrait jamais un contenant dans lequel on ne croit pas sur le marché. C'est notre travail d'aller vérifier ce que font les fabricants. Et on est très serein aujourd'hui sur le fait que les contenants qu'on utilise sont totalement inoffensifs et sont d'une innocuité totale. On essaye aussi de mettre en place des contenants qui soient encore mieux avec mon bento pour qu'ils soient plus durables. Et on essaye aussi d'apporter le plus de garanties possibles à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'est prouvé, il n'y a pas de BPB non plus dans nos contenants. Il se trouve que le BPB, c'est un matériau, enfin une molécule qu'on trouve principalement dans les matériaux qui sont proches du BPA. Donc quand c'est fait, quand ça provient d'une source sûre, normalement, s'il n'y a pas de BPA, il n'y a pas de BPB
non plus. À quoi ça sert le BPA et le BPB?
Là, tu m'en demandes trop. Je vérifie juste qu'il n'y en a pas. Moi. Je ne suis pas plasticien.
Ma dernière question, ce sera justement, est-ce que tu sais combien de, aujourd'hui, à peu près, combien de fois peuvent être utilisés tes contenants?
Ouais, nos contenants, ils peuvent être utilisés de manière... Enfin, en fait, les contenants, ils sont testés 2000 fois en lavage, 2000 cycles. Mais après, il faut... à peu près n'importe quoi peut arriver à ces contenants, surtout dans des systèmes ouverts comme ça, un peu comme les vélos partagés. Théoriquement, on pourrait avoir des sabotages ou des gens qui viennent endommager les contenants. Aujourd'hui, nous, on est capable de dire « Ok, ce contenant, c'est telle personne qui est responsable ». Ce qu'on garantit aujourd'hui, c'est 300 cycles, que ça passe au niveau du lavage. Après, on n'est pas fermé. Il peut y avoir aussi des sabotages. Si on a vraiment envie de détruire le contenant, on peut... mais il faut savoir que les contenants sont testés 2000 fois en lavage.
D'accord.
En conditions normales.
Ok. Très intéressant. Merci beaucoup pour ton témoignage. Je rappelle que nous, chez Ecotable, on a un annuaire de prestataires engagés dans lequel fait partie Bearpack, qu'il y a d'autres... aujourd'hui, vous n'êtes pas les seuls sur le marché. Il y a évidemment d'autres prestataires de consignes. Ce qui est important, c'est en effet de mettre en avant ce réemploi et de vous faire votre choix... auditeurs et auditrices sur ce que vous avez envie d'utiliser comme consigne, en gardant en tête qu'on peut aussi souvent, en tout cas pour le click and collect, ramener son propre contenant et qu'on l'oublie trop souvent.
C'est même obligatoire depuis le 1er janvier.
C'est vrai ?
Oui.
Eh ben écoute, je suis ravie que tu le dises ici.
Et c'est d'ailleurs quelque chose qui fait un peu peur aux restaurateurs et aux restauratrices en ce moment, le fait que les gens puissent rapporter leur propre contenant, mais faut bien leur rappeler que c'est obligatoire.
On peut tous amener nos contenants, donc on peut tous mettre sa pierre à l'édifice. Merci beaucoup, Nicolas.
Merci d'avoir écouté le podcast sur le grill d'Ecotable. Pour nous soutenir, notez ce podcast 5 sur 5 sur votre plateforme d'écoute préférée et lâchez un commentaire. N'oubliez pas aussi d'aller manger dans nos restaurants vertueux et délicieux dans toute la France. Amis restaurateurs et restauratrices, découvrez notre plateforme de restauration durable impact.ecotable.fr qui vous permet de mesurer votre impact, trouver les bons fournisseurs et vous former sur toutes les questions d'éco-responsabilité. À bientôt.
Ecotable. Ecotable.